no amani économique.
Bienvenue, messieurs et dames, à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Panorama économique vous propose un dossier dans le secteur minier. 46 ONG œuvrant dans le secteur des ressources naturelles ont écrit au Premier ministre. Elles lui demandent de relancer le processus de révision de l'actuel code minier de la RDC, dont le projet a été retiré au Parlement à l'insu des autres parties prenantes. Pendant qu'elles faisaient leur déclaration, le ministre des Mines recevait le prix décerné à la RDC par ITIE International, le prix de la déclaration de la propriété réelle. La libéralisation du secteur des assurances en RDC était également au menu de l'actualité économique cette semaine. Une année après la promulgation du Code congolais des assurances, l'heure est venue pour la mise en œuvre des mesures d'exécution. Et dans la deuxième partie de Panorama économique cette semaine, nous allons parler de la bancarisation de la rétrocession des primes de services d'assiette. À cet effet, un atelier a eu lieu à Kinshasa. C'était mercredi et jeudi dans la capitale. Voilà pour les titres.
Panorama économique, le dossier.
Messieurs, dames, bonjour. Commençons Panorama économique par la problématique de la révision du code minier de la RDC. Au total, 46 organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles demandent au Premier ministre Matata Ponyo que la révision du code minier de la RDC soit inscrite à l'ordre du jour de la session de mars au Parlement, session attendue dans quelques jours. Elles l'ont dit jeudi à Kinshasa au cours d'un point de presse. Suivez plutôt cette interview que nous avions eue avec M. Henri Mouya. Il est de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles. La CERN est une structure de la CENCO, une des ONG signataires du mémo adressé à Matata Ponyo.
L'idée est venue après le fait qu'on a écrit au Premier ministre, on lui a envoyé une lettre le 4 février pour lui demander de relancer le processus du code de révision du code minier qui est bloqué parce que le projet de loi était déjà déposé au Parlement et le gouvernement l'a retiré. Et nous estimons que tous les efforts qui ont été fournis dans les travaux tripartites et même la volonté exprimée par le chef de l'État en 2011 quand il a prononcé son discours d'investiture, tout cela risque de tomber dans l'eau. Et nous pensons que la raison de considérer que c'est la fluctuation des prix sur le plan international, à notre avis, n'est pas pertinente.
Donc vous confirmez aujourd'hui que le projet de loi portant révision du code minier qui était à l'Assemblée nationale, c'était des rumeurs, aujourd'hui c'est chose vraie que ce projet de loi a été retiré.
À entendre la contradiction entre deux ministres du même gouvernement, vous pouvez savoir que le processus n'avance pas. Et en septembre de l'année passée, nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale pour lui demander d'inscrire le projet de loi au calendrier. Cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait non plus, on ne sait pas si ça va être fait en mars ici, parce que si on entend ce que le ministre des Mines a déclaré et ce que le ministre de l'Économie a dit par la suite, donc on trouve vraiment que le projet est en souffrance.
Le ministre des Mines l'avait dit à Indaba en Afrique du Sud que le gouvernement renonçait et que le code qui régit le secteur des mines en RDC, c'est l'actuel code minier jusqu'à nouvel ordre, et cela pour des raisons que personne n'ignore, les cours des matières premières sur le marché international sont vraiment en baisse. Le marché est instable. Il faut favoriser les investisseurs.
Prenons le sens inverse. En 2002, le cours des métaux, pour le cuivre par exemple, c'était 1 550 $ la tonne. Et le cours a évolué en 2012 jusqu'à 8 000 $. Qui en a profité? Est-ce qu'on a changé la législation? Maintenant, ça a baissé pas moins de 3 000. Donc, ça veut dire que pour nous, un fait aléatoire ne peut pas freiner une réforme législative qui est une opération régulière d'un État.
Mais pourquoi vos organisations de la société civile tenez mordicus à revoir ce code minier qui n'a que 10 ans?
Il n'y a pas que nous. J'ai dit que c'est le président de la République, dans son discours d'investiture en 2011, qui a annoncé la révision du code minier. Et d'aucuns, même le Fonds monétaire international, s'est rendu compte que le code de 2002 n'a pas bénéficié au pays, mais il a bénéficié plus aux investisseurs. Et quand on est en face d'un paradoxe d'abondance des ressources et de pauvreté de la population, au niveau de la société civile, Nous avons l'objectif de défendre les intérêts des droits et les intérêts des populations et du pays. C'est pour cela que nous tenons à ce que le processus initié et pour lequel on a obtenu des convergences au niveau de la tripartite gouvernement, entreprises minières et société civile ne devrait pas être arrêté comme ça sans raison qui soit communiquée.
Il était reproché à l'actuel code minier son régime douanier et fiscal à notre connaissance. Quoi d'autre vous reprochez à l'actuel code minier que vous appelez de tous vos voeux qu'il soit revu?
Si on a dit que c'est le régime fiscal, d'ailleurs c'était le point de discorde, je dois dire qu'il y a quand même des points sur lesquels on s'est entendu dans la tripartite, mais je venais de vous montrer ici que les intérêts ou les gains doivent être équilibrés entre les entrepreneurs, le pays et la population.
Comment ils bénéficient au détriment de la population et le pays?
Je vous donne l'exemple de l'embellie du cours de cuivre. Rien n'a changé pour le bénéfice du pays. Ceux qui ont gagné, ce sont les entreprises.
Et vous vous attendez à quoi, après ce mémo et cette déclaration que vous adressez aujourd'hui au Premier ministre?
Notre demande est qu'on puisse réinscrire ce projet de loi au calendrier de la session de mars ici, parce qu'on ne peut pas attendre longtemps. Puisque les dispositions qui seront adoptées ne sont applicables que dans 10 ans, sauf celles relatives à la redevance, on ne peut pas longtemps attendre pendant que les ressources sont en train de s'épuiser et qu'elles ne sont pas renouvelables.
Le chef de l'État a annoncé la révision du code minier et son gouvernement trouve que ce n'est plus opportune cette révision et décide de retirer le projet de loi. Et vous, société civile, vous vous en tenez?
Nous défendons les intérêts de la population. Nous savons que le gouvernement a la politique, mais le gouvernement a besoin aussi des avis de la population pour pouvoir faire avancer sa politique.
Monsieur Henri Mouya, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Pendant que les ONG faisaient cette déclaration au centre interdiocésain de Kinshasa, à l'hôtel du gouvernement et toujours jeudi, le ministre des Mines, Martin Kabouloulou, recevait le prix décerné à la RTC par ITE International, prix de la déclaration de la propriété réelle. Sur quoi ce prix, Nadine Foulantimba?
La RDC est devenue membre de l'ITE International en 2007 et depuis lors, elle présente régulièrement des rapports sur les revenus dans l'industrie extractive. Les prix qu'elle vient de recevoir ce jeudi est le tout premier décerné par l'ITI International pour les efforts fournis. Georges Wembi, ministre du Plan.
Les efforts inlassables fournis par la République démocratique du Congo pour, dans ces efforts de divulgation, notamment de revenus du secteur extractif, de la propriété réelle, de la fiabilisation de données, de l'exhaustivité des entreprises publiques et privées, de l'exclusivité de cadres référentiels.
Pour sa part, le ministre des Mines s'est dit très honoré par ces prix. Il loue les efforts fournis tout en soulignant que beaucoup reste à faire dans le secteur minier. Martin Kabouloulou.
Bon, le prix est la fin de la fraude, ce n'est pas la fin de la fraude, mais nous faisons tout pour que tout soit transparent. Ceux qui cachaient les recettes, ils doivent maintenant les mettre à la place publique. Ce ne sera pas la fin de tout, mais les efforts sont faits pour que le moins possible les gens puissent se déclarer, le moins possible les gens puissent être transparents.
Les coordonnateurs de l'ITIER RDC est très fier pour la RDC. Il explique le sens de ces prix de propriété réelle.
Par propriété réelle, il faut comprendre le vrai propriété d'une entreprise et non pas statutaire. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises en République démocratique du Congo comme partout ailleurs qui arrivent pour investir, mais on ne connaît pas qui est à la tête. Lorsque ceux qui sont vrais propriétaires ont de l'influence dans la politique, ils peuvent influer sur le paiement des taxes.
Sachez que la Mongolie et le Ghana ont également reçu des prix relevant d'un autre domaine.
Et vous allez me permettre de boucler ce chapitre consacré aux mines par la province du Lualaba après Boss Mining et Congo Cobalt Corporation. C'est le tour de l'entreprise minière Comidé qui a procédé aussi à l'arrêt de ses activités. La raison est restée la même que les autres entreprises, la chute des cours des métaux au niveau mondial. Sur 266 agents que compte Comidé, l'entreprise entend remercier 243. Les négociations entre l'employeur et la délégation syndicale s'était clôturée le samedi dernier, mais selon les syndicalistes, au-delà du décompte final que devra toucher chaque travailleur, l'employeur n'a accepté de verser que 3 mois de salaire comme indemnité de sortie au lieu de 14 mois proposés. Rappelons que Comidé produisait 2400 tonnes de concentré de cuivre par mois.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Poursuivons panorama économique en province de la Tchopo pour vous rappeler ce bras de fer dans le Bas-Ouélé depuis le début de cette semaine qui se termine entre la Fédération des entreprises du Congo et la Direction générale des impôts à Bondo. Bondo est situé à plus de 500 km au nord de Kisangani. Les opérateurs économiques de ce territoire sont réticents de payer le triple du montant des impôts tel qu'annoncé à la hausse par le nouveau directeur de la DGI. Il s'agit de l'impôt sur le bénéfice et profit, IBP, et l'impôt professionnel sur la rémunération, IPR, dont les assignations doivent atteindre 138 millions de francs congolais pour l'ensemble du territoire de Bondo. Les explications avec Aliana Alipanagama.
C'est au cours de sa première réunion des prises de contact que le nouveau directeur de la DGI Bondo a annoncé aux opérateurs économiques les assignations qu'ils attendent d'eux pour cette année. Cela conformément à la loi des finances 2016, a précisé Nestor Ingolo.
J'ai démontré noir sur blanc avec les documents que les assignations allouées à la DGI Bondo par rapport à l'année 2015 ont été triplées. Un pot sur le bénéfice, la loi prévoit qu'une petite entreprise dont l'effet de chiffre d'affaires varie entre 100 et 10 millions et aujourd'hui 200 millions au regard de la loi de finances 2016, avant c'était de 10 millions à 80 millions.
Ce chiffre, c'est ce que les opérateurs économiques de Bondo ne veulent pas entendre de leurs oreilles. Ils affirment ne pas être en mesure d'atteindre ces assignations au regard de la dégradation du climat des affaires à Bondo. Valentin Balemoni, président AI de la FEC Bondo.
Il a essayé de tripler les impôts. C'est pourquoi ça n'a pas arrangé les opérateurs économiques. Il doit s'adapter au système laissé par son prédécesseur. Payer, payer, mais l'économie ne marche pas bien. Nous devons payer toujours comme par le passé.
Pendant ce temps, l'administration du territoire de Bondo continue à jouer la médiation entre les deux parties pour arriver à un consensus. Aliana Alipanagama, Kisangani, Radio Okapi.
Parlons à présent de cet atelier de mercredi à Kinshasa sur la libéralisation du secteur des assurances en RDC. Atelier organisé par Ernest Nyang, un des principaux cabinets d'audit financier. Cet atelier devrait baliser le terrain pour la libéralisation du secteur d'assurance en RDC. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir l'organisateur pour en parler en long et en large dans cette émission éducative. Toutefois, nous promettons de revenir sur ce sujet combien important dans nos prochaines éditions. Et sans transition, nous appelons Jean-Louis Kayembe. Jean-Louis Kayembe est le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires. Il est aussi le président du comité de suivi de la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État. Nous l'appelons pour parler de cet atelier mercredi et jeudi. Cette semaine, c'était à Kinshasa. Jean-Louis Kayembe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires. Vous vous chargez, vous êtes le président du comité de suivi de la bancarisation des paies des fonctionnaires et agents de l'État. Et là, vous venez de clôturer à Kinshasa le séminaire, un atelier sur la bancarisation de la prime de la rétrocession des services d'assiette, c'est ça?
Tout à fait.
De quoi il était question?
Donc, comme vous l'avez dit, il était question, cette fois-ci, de bancariser cette prime-là, qui est rétrocédée au service d'assiette, donc le service générateur de recettes. Alors, c'est en fait dans la ligne droite de plan d'action du comité, sur instruction du gouvernement, il était donc question, d'abord nous avons commencé par bancariser les salaires de base, ensuite les primes professionnelles, et maintenant nous sommes à l'étape de bancariser les primes de rétrocession. Les services d'assiette bénéficient de 5% de rétrocession, mais jusque-là, cette prime est payée et manuellement par le voie des comptables. Alors, les bénéficiaires eux-mêmes ont fait pression pour que cette prime également, à l'instar du salaire des autres primes, soit bancarisée, étant donné que cette prime également fait partie de rémunération ou d'autres avantages des agents fonctionnaires de l'État. Donc nous avons eu cet atelier pour que les uns et les autres s'expriment quant aux modalités de bancarisation de cette prime, parce que vous savez, il y avait beaucoup de polémiques autour de la clé répartition, autour de la gestion, la transparence, il y avait beaucoup d'opacité, et donc nous sommes assis, syndicalistes, secrétaires généraux, les gens du ministère, et ainsi que les comités payent pour étudier les modalités pratiques de bancarisation de cette prime.
Et vous avez arrêté ces modalités?
Oui, nous avons arrêté les modalités. D'abord, il y a eu, nous avons, après avoir posé les problèmes, présenté les diagnostics sur actuel et les relevés l'état qui ronge en fait cette prime, qui font polémique. Nous avons essayé de nous constituer en sous-commission, s'agissant de la clé répartition, de la gouvernance de la prime, des critères d'éligibilité de la prime, et des recommandations ont été faites par rapport à la bancarisation effective de cette prime. Et cela nous a pris donc 2 jours pour réfléchir, et nous sommes arrivés à quelque chose de concret. Ce que nous avons compris, c'est que vraiment, les gens ont adhéré à la réforme, nous ont dit clairement qu'ils veulent que tous les avantages qu'ils ont, que tout passe par la banque pour beaucoup plus de sécurité et de transparence. Ils ont même dit que même si c'est un avantage qui porte sur un montant de 1 000 francs, que ces 1 000 francs-là passent par la banque. Comme ça que nous avons compris. Il y en a d'autres, même des policiers, qui nous disent que bancarisez-nous même les colis de fin d'année, tout ce qui reçoit, comme les sacs de riz, de poulet, soient bancarisés. Donc, alors qu'il y a des choses qu'on ne peut pas bancariser. Donc, on a compris que le message, c'est que tous les avantages passent par, bien sûr, s'ils sont payés sous forme de fiduciaire, et ça passe par le canal bancaire, et parce que ces canaux, en tout cas, garantit un certain nombre de choses, notamment sécurité, transparence et fiabilité.
Et puisque nous sommes aussi une émission pédagogique, oui, qu'est-ce que nous pouvons retenir par les services d'assiette que vous êtes en train de bancariser?
Oui, les services d'assiette, ce sont en fait des services qui procèdent à la liquidation et à l'ordonnancement de recettes, comme vous le savez. Des services tels que le ministère, tel que le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Mines, le ministère des Hydrocarbures, le ministère des Pétanques, tous ces ministères-là gèrent des actes générateurs de recettes. Et donc, avant que pour certains taxes ne soient perçus par la DGRA, qui est donc la régie qui est chargée de la gestion des recettes administratives et domaniales, avant que la DGRA ne puisse percevoir ces recettes, donc ceux qui doivent payer ces recettes doivent passer par des services concernés, des services d'assiette, pour qu'on puisse calculer sur base de, notamment lorsque vous êtes dans les secteurs de mines ou vous êtes dans les affaires étrangères, par exemple, on doit vous délivrer un passeport. Il faudrait que, au niveau des affaires étrangères, qu'on puisse vous faire effectivement la quittance, vous faire la facture, vous calculer le montant que vous devez payer. À ce moment-là, c'est en fait ces services-là qu'on appelle les services d'assiette. Donc, qui détermine la taxe que vous devez payer. Et lorsque ces services-là d'assiette ont fait leur travail, on vous a délivré donc le montant à payer. À ce moment-là, vous allez auprès d'une banque et vous allez payer, et cet argent va dans les comptes de la DGRA, c'est la régie financière qui collecte, qui centralise toutes ces recettes-là, administratives et ainsi de suite, c'est la DGRA. Donc tous ces services-là, dont les taxes passent par la DGRA, des taxes qui sont à la base de la mobilisation de ces recettes administratives, c'est en fait ce service-là qu'on appelle les services qui rentrent dans le cadre des services d'assiette.
Et après les services d'assiette, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous, chargé de la bancarisation, qui allez vers les services, ou ce sont les services qui manifestent le désir que leur revenu soit bancarisé? C'est ça quoi la prochaine étape?
Oui, en fait, le problème, comme je le disais, c'est en fait maintenant les bénéficiaires eux-mêmes d'un quelconque avantage de la part de l'État. pour des raisons de transparence, raisons d'équité, de sécurité, veulent que ça soit bancarisé. Donc, il y a des demandes des syndicats, les bénéficiaires eux-mêmes qui ont écrit au ministre, par son exemple, ce ministre des Finances, pour demander à ce que cette prime soit bancarisée. Parce que jusque-là, la prime, elle est, lorsque les recettes sont réalisées, il y a d'abord une certaine conciliation qui est faite entre la DGRAB et les services d'assiette pour voir, par exemple, en ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, pour parler de ces ministères-là, combien de recettes ont été mobilisées concernant, par exemple, la vente des passeports, l'État a réalisé combien. Donc, ce service qui a contribué à la réalisation de ces recettes, ce service d'assiette, ces ministères-là, se mettent d'accord, se mettent ensemble avec la DGRAB pour savoir le montant qui a été réalisé. Sur cette base-là, on calcule la rétrocession qui est de 10%. Après les calculs de la rétrocession de 10%, d'abord pour le calcul, il faut que ça se mette d'accord, qu'ils tombent d'accord sur les montants effectivement mobilisés, parce que c'est ça qui constitue la base de calcul. Et lorsqu'ils sont d'accord, et elle a déjà 5%, le service également prend 5%, et dans les 5%, là, la clé de répartition, c'est qu'il y a 40% qui est affecté au fonctionnement et à l'investissement, et 60% pour motiver et les agents et fonctionnaires de l'État qui ont contribué à la réalisation de cette prime. Maintenant, les partages de cette 60% de cette motivation posaient des problèmes parce que au niveau de la confection des listes, au niveau des critères de l'éligibilité, les critères de partage, il y en a qui prenaient des pourcentages, 10% au secrétaire général, 10% à telle catégorie, il y en a d'autres qui répartissaient selon une formule simple, de manière équitable à tout le monde. Donc, on devait réfléchir sur tout ça et arriver à dire, bon, maintenant qu'en amont, et pour assurer la transparence, les syndicalistes ne voyaient pas clair. Lorsque les listes étaient confectionnées, il y en a donc qui ont dit que, par exemple, que sous les listes, les secrétaires généraux mettaient tous, bon, les cousines, on retrouvait les noms, ce qu'on appelle les nouvelles unités, c'était des amis, des camarades, ainsi de suite, et ce n'était pas transparent du tout. Et donc, au niveau de liste bénéficiaires, nous devions nous mettre d'accord qui sont bénéficiaires. Ceux qui ont le numéro matricule, ou les ayants droit, ou le NU, ou également pour lorsqu'on a arrêté les types d'éligibilité, les bénéficiaires, et que de tous ceux qui sont invalides, les malades, ceux qui sont absents, et pendant une certaine période, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner, ou bien il faut simplement donner à ceux qui étaient là, qui ont effectivement concru à la réalisation de ces recettes-là. Donc, toutes ces questions-là, le manque de transparence, ainsi de suite, ont poussé les syndicalistes à dire, nous ne voyons pas clair, il faut que ça soit bancarisé, que des critères soient fixés, et que la banque, les listes puissent travailler à la banque, et que qu'ils ne touchent pas les canaux, que l'argent tombe dans les comptes de chaque bénéficiaire, au lieu d'être à la merci des comptables qui payent quand ils veulent, quand bien même qu'ils peuvent, l'argent est là disponible, mais ça dépend parfois des humeurs et des circonstances. Ah, donc, ils veulent échapper à toutes ces contraintes-là, mais c'est que l'argent est disponible, l'argent est dans les comptes et ils peuvent en disposer quand ils veulent.
Et vous avez pris des dispositions de suivi de sorte que, une fois la rétrocession opérée, que l'argent arrive dans les comptes de chaque bénéficiaire.
Oui, parce que dans les résolutions, on a conseillé, donc on a arrêté qu'au niveau de chaque service d'assiette, au ministère, ce soit organisé, il y aura des comités de suivi de la prime d'assiette. Et donc, ces comités-là vont assister. Il y aura des membres qui seront désignés. Nous avons arrêté les membres qui vont assister, par exemple, à la conciliation des chiffres entre la DGRAB et les services concernés. Et puis, l'élaboration des listes. Quand les listes seront élaborées, les syndicalistes, les syndicats doivent, une délégation, un représentant de la délégation syndicale doit être là également comme membre pour valider les listes. Et que quand les listes vont à la direction de la paye, et que tout le monde se rassure que la direction de la paye, l'ordonnancement, l'argent va aller dans les comptes de chaque bénéficiaire et qu'il n'y aura pas de fuites ou de fuites ou de pertes d'argent quelque part. L'argent ne va pas se volatiliser quelque part. Donc nous avons réfléchi sur la clé de répartition, l'éligibilité, la transparence, la sécurité. Tous ces aspects-là ont été abordé et je crois à la satisfaction de tout le monde.
Monsieur le DG, souvent ça se passe bien pour Kinshasa, mais pas pour l'intérieur du pays. Ces aspects ont été également effleurés.
Oui, pour l'intérieur, peut-être que ça sera dans un deuxième temps. La première étape, c'est d'abord de faire les services ici. À l'intérieur également, c'est la même chose. Il y a des peines qui sont rétrocédées en province. Je pense que ça sera l'étape qui va venir. Donc, nous allons passer aussi à la bancarisation, la prime des concessions au niveau de province.
Jean-Luc Kalimbé, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, je vous en prie.
Merci Jean-Louis Kayembe, au revoir et très bonne fin de semaine à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Retrouvez cette émission sur www.radiookapi.net. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues à seoeco@radiookapi.net. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.